Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Du Cap Ferré à Strasbourg, de la Duchère à Lyon, à Briançon, en passant par Nantes et Marseille, installez-vous, c'est le débat du jour.
RFI.
Qui sont les Français? Comment vont-ils? Quelles sont leurs aspirations? À 6 mois de l'élection présidentielle, ces questions prennent toute leur place. Après un quinquennat marqué par des manifestations de colère, des gilets jaunes aux anti-vaccins et anti-pass sanitaires, quelle est la France d'aujourd'hui? Ses tourments, ses atouts, ses rêves? Le pays correspond-il à la grille de lecture des politiques? La France est-elle celle que nous présentent les médias? Sûrement un peu, mais pas de manière exhaustive. Cette France en mutation, dopée par le télétravail, née du Covid et qui conduit par exemple aujourd'hui à un exode important des citadins vers les campagnes. La France des villes et des campagnes, la France des banlieues et du bord de mer, avec des études, des exemples, des initiatives à l'appui, nous tenterons ce soir l'exercice périlleux de disséquer la société française. Une émission réalisée par Jean-Philippe Thury, coordination Florence Ponce, documentation Emmanuel Sevin, rédaction en chef Frédéric Misselin. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus.
RFI.
Avec 3 invités. Tout d'abord, Hervé Lebraz, merci d'avoir répondu présent. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes démographe, historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et chercheur émérite à l'Institut national d'études démographiques, auteur de très nombreux ouvrages, entre autres « Se sentir mal dans une France qui va bien » aux éditions de l'Aube, ou encore, je citerai, « Le mystère français » avec Emmanuel Todd. En face de vous, Nicolas Chapuis, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue, directeur adjoint de la rédaction du journal Le Monde, le quotidien qui a envoyé sur le terrain 100 journalistes et 100 photographes pour ce qu'on appelle prendre le pouls de la France à 6 mois de la présidentielle. Le projet s'appelle Fragments de France. Et puis au téléphone avec nous, Martial Foucault, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques et directeur du CEVIPOF, le centre de recherche politique à Sciences Po. Alors pour tenter de mieux comprendre l'actuelle société française, inspirons-nous du travail de nos confrères du Monde avec vous, Nicolas Chapuis. Fragments de France, c'est le nom de ce projet inédit, je le disais, un 100 reportages réalisés dans tout le pays à la rencontre des Français. Comment vous est venue cette idée ?
On a réfléchi en ouverture de cette campagne présidentielle à notre dispositif, comme tous les médias, et ça nous est venu de deux constats. Le premier, c'est celui que le pays qui était tel qu'il était représenté dans beaucoup de médias, vous l'avez dit tout à l'heure, et aussi à travers les déclarations des responsables politiques, ne correspondait pas à l'image que nous, on voyait du pays quand on partait sur le terrain. Et le deuxième constat, c'est que cette société française, elle a été totalement bouleversée dans des proportions qu'on ne mesure pas encore, à mon avis, par cette crise sanitaire, et que il est impossible aujourd'hui de dire qu'on connaît le pays sans aller le voir à hauteur d'hommes et de femmes. Et nous, le monde, comme dans toute la société, cette crise du Covid a fait des dégâts. On a une rédaction qui forcément est moins sortie, avec les confinements, les couvre-feux, avec les gens qui ont des situations personnelles, les gens qui ont été malades, les gens qui ont des personnes vulnérables à domicile. Et donc, on a éprouvé le besoin de commencer cette campagne présidentielle finalement par le début de ce qu'est le journalisme, à savoir retourner massivement sur le terrain et raconter cette France telle qu'elle est et pas telle qu'on la présuppose, ne pas partir des polémiques, des clashs, de l'opinion finalement, mais partir tout simplement des faits, de l'enquête, du terrain, du reportage. Et donc on a envoyé 100 journalistes pour avoir 100 petites histoires, 100 fragments qui, mis bout à bout, on l'espère, dressent un portrait de la France qui est assez différent de ce qu'on voit par ailleurs.
À retrouver notamment sur votre site internet.
Tout à fait.
Alors, le titre général, Fragments de France, je me tourne vers vous, Hervé Lebraz, démographe. Est-ce que vous observez aussi cette fragmentation de la France ?
Je trouve le mot fragment très intéressant parce qu'au fond, on a vu d'abord fracture. J'ai utilisé avec Jérôme Fourquet dans un petit livre de la Fondation Jean Jaurès le mot puzzle français. Puzzle. Et puis il y a eu le mot archipel qui a pris. Comment tout ça s'arrange ? Et je trouve que en fait le mot fracture est bon, mais il y a plusieurs fractures. Si vous voulez, donc elles se recoupent et elles créent. Et c'est là que je pense que le terme fragment est bon. Elles créent des fragments, mais elles existent en tant que fractures, mais du fait qu'elles sont nombreuses. Et alors que le mot puzzle correspond à peu près aussi, parce que ça a un sens, les morceaux du puzzle se tiennent les uns les autres. alors que le mot archipel, n'en déplaise à mon cher ami Fourquet, c'est vague, archipel, ça ne se tient plus, c'est vraiment le hasard. Donc le mot fragment est, je trouve, un très bon terme, intermédiaire justement entre fracture et puis archipel.
Et à travers vos différents travaux, vous l'observez aujourd'hui, en 2021, cette fragmentation française ?
Alors, avec mon type de travaux, c'est très difficile de... j'ai besoin de données assez massives, donc je commence seulement à les avoir sur 2020. Je pense pas non plus que ça sera des changements tout à fait énormes sur des, par exemple sur des points très simples comme est-ce que ça atteint, c'est le travail du démographe, la natalité. Ça atteint très peu la natalité. Il y a une tendance à la baisse de fécondité en France, donc il y a eu une chute au moment des vagues, mais il y a une reprise après les vagues, donc on voit que là, quelque part, ça a résisté. Sur la mortalité, il y a eu des débats, j'ai participé dans le journal Le Monde, c'est quand même relativement faible, ça ne modifiera pas beaucoup d'ailleurs le problème des retraites. On voit bien que ça continue comme avant pour les retraites.
Martial Foucault, professeur de sciences politiques et directeur du CEVIPOF, vous avez notamment travaillé avec Ipsos Prasteria pour Le Monde à travers un sondage. On va en parler de tous ces résultats, notamment sur les différentes préoccupations des Français. Est-ce que vous aussi, vous partagez le mot de fragmentation française ?
Oui, je dirais que je suis peut-être plus à l'aise, moi aussi, avec le terme de fragment que le terme d'archipel ou d'archipélisation de la société française. Je crois qu'on pourrait encore mobiliser d'autres vocables pour décrire ce que nous n'arrivons pas à décrire, tout simplement. Mmh. Donc, fragment, c'est l'idée un peu une centaine de tranches de vie, des parcours, des trajectoires. Et je crois que ça, c'est très important parce qu'on donne de la chair à ce que tout dispositif d'enquête ne peut pas restituer. On est un peu dans une forme d'abstraction. Je dirais qu'il y a peut-être un autre terme qui, moi, m'intéresse beaucoup derrière cette idée de comprendre ce qui se passe actuellement. C'est au fond les différentes formes de polarisation. Parce qu'on rentre dans une période où, effectivement, on parle de politique, on va s'interroger aux politisations des enjeux, des formes de socialisation politique. Et donc, on voit bien qu'il y a... Il y a une forme, je crois que beaucoup emploient le terme d'hystérisation du débat public, et donc ça soulève des questions sur la polarisation. Mais je dirais aussi un autre élément dans la démarche du Monde qui me paraît très intéressante, c'est malgré tous les efforts, et vous venez d'évoquer cette enquête qu'on mène. Alors c'est un sondage méthodologiquement, mais le dispositif est dans la longueur. Nous interrogeons depuis novembre 2015 un échantillon très important de Français, 25 000, que nous suivons. Donc aujourd'hui, on a réduit le nombre, l'attrition a joué naturellement. Mais je dirais que c'est la démarche du Monde nous permettra d'enrichir dans notre connaissance avec cet outil d'enquête, c'est ce que l'on ne peut pas objectiver dans la connaissance des Français que nous interrogeons. On peut objectiver un âge, et c'est pas Hervé Lebras que je veux dire le contraire, un âge, une démographie, une condition sociale, un lieu de résidence, mais en revanche, tout ce qui relève, et je crois qu'on est dans ce moment où il y a une dimension beaucoup plus subjective, les notions de bien-être, de mal-être, de confiance, d'émotion, de ressentiment, ça, je dirais qu'on est encore très mal outillé à travers nos outils pour aller saisir, capturer ce subjectif. Et là, donc, on a besoin de ces outils parallèles. Je trouve que cette démarche, la démarche du Monde, est très intéressante parce qu'on va pouvoir essayer de formuler des questionnements au regard de ces enquêtes, de ces reportages. Mmh. Pour améliorer notre dispositif.
Nicolas Chapuis.
Ouais, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Martial Foucault. Je suis très frappé par la forme du débat politique actuel qui finalement a repris un peu comme si c'était rien passé avec le Covid. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que le Covid s'est terminé, c'est derrière nous, et que en gros, on reprend comme avant sur les mêmes thèmes qu'avant, et donc on remet en avant le fait que l'immigration, l'insécurité seraient les premiers thèmes des Français, ce qui est faux. faux, démontrés à longueur d'enquête. Et je pense qu'on fait totalement abstraction de l'impact sur en termes d'émotion sur les Français de l'épreuve qu'ils viennent de vivre et qui sera absolument majeure dans l'échéance de 2022 et dont ils parlent tous sur le terrain. Et on fait totalement abstraction de ça.
Dans votre étude, une des résultantes, hein, Martial Foucault, vous le disiez là, Nicolas Chapuis, parmi les sujets qui préoccupent les Français, numéro 1, pouvoir d'achat, en numéro 2, l'écologie, et non l'immigration et l'insécurité, n'en déplaise à certains.
Oui, et je dirais que c'est même une constante depuis plusieurs mois. La question du pouvoir d'achat, et que l'on peut décliner d'ailleurs derrière la vie chère, et donc forcément ça nous oblige à remémorer ce qui s'est produit depuis 5 ans et cette crise sociale, mouvement des Gilets jaunes. Donc oui, le pouvoir d'achat, c'est une constante, comme vous dites, n'en déplaise à certains. L'environnement, on l'avait vu apparaître lors de l'élection européenne et puis de nouveau lors de l'élection municipale, non seulement comme une priorité souhaitée par les Français, mais aussi, je dirais, du côté de l'offre politique. On a vu combien de candidats qui aujourd'hui ne sont pas encore tous et toutes convaincus de l'enjeu environnemental se sont mis à verdir leur programme pendant les élections municipales. Donc aujourd'hui, quand notre enquête met en évidence que oui, pouvoir d'achat, environnement sont les deux priorités principales, ça traduit quelque chose qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la manière où la campagne aujourd'hui se structure autour de ces enjeux. Et d'ailleurs, pour les candidats ou candidates qui souhaiteraient imposer ces enjeux, on voit la difficulté qu'ils et elles rencontrent pour imposer ce débat. Et donc, il y a, comme je parlais, d'une forme d'hystérisation. Et forcément, quand on parle d'immigration et délinquance, on voit bien comment on peut modifier et un peu travestir le débat politique, quitte à le rendre peu serein quand on observe certaines joutes oratoires autour de ces enjeux.
Hervé Lebras, vous voulez réagir?
Je vais en rajouter une couche avec le sondage d'une maison concurrente qui est le dernier sondage de l'IFOP, où cette fois-là, la migration apparaissait en 6e position parmi les préoccupations des Français. La première étant, alors ça dépend bien sûr de la forme des questionnaires, mais la première étant cette fois-là la santé, donc liée à l'épidémie, ce qui correspond bien à votre appréciation. Mais ce qui était tout à fait particulier, c'est que dans la présentation que l'IFOP en a faite, je crois que c'était mercredi dernier, là, il y a 8 jours, ou vendredi, peu importe, Michel Barnier était invité pour faire un commentaire. Et dans ce commentaire, il a tout de suite dit « Les trois préoccupations majeures des Français sont la migration, le pouvoir d'achat et la santé ». Donc, il avait sous les yeux l'inverse. Et je pense qu'il y a une assez grosse responsabilité politique, et pas simplement des plus extrémistes, dans cette mise en scène de la migration actuellement.
Et l'insécurité, vous dites aussi Nicolas Chapuis, la France ne ressemble pas à ce cliché d'une nation qui se résumerait à la violence ou à la peur.
Il faut pas dire que ces préoccupations n'existent pas chez nos concitoyens, elles sont présentes, mais il faut juste les remettre à leur place. Aujourd'hui, les Français, quand on va les voir sur le terrain, comme on l'a fait avec nos 100 journalistes, ne vous parlent pas de ça en premier. Martial Foucault l'a dit, le pouvoir d'achat sous toutes ses formes, cette inquiétude d'un certain nombre de Français pour savoir comment ils vont terminer le mois, est vraiment la donnée qui ressort vraiment en premier, beaucoup plus que les questions d'insécurité et d'immigration, qui, encore une fois, existent, mais sont assez secondaires. Et ce qu'on voit chez les Français, c'est que quand on voit certains médias ou certains responsables politiques qui parlent d'un scénario de guerre civile qui serait à nos portes, quand on parle aux Français, ils sont pas du tout dans ce scénario-là, pas du tout dans cette hypothèse-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas, comme on l'a dit, des fragments, des collisions, des micro-frictions qui existent partout dans le pays et qui sont assez révélatrices de la tension qu'il y a.
À l'instar là, du reportage que je vous propose maintenant d'écouter, reportage RFI à Nantes, où le nombre de fusillades se multiplie dans l'agglomération nantaise, 45 depuis le début de l'année, 12 blessés, 1 mort. C'est le bilan de cette hausse des violences armées, quasiment liée à chaque fois au trafic de drogue, un phénomène qui inquiète les habitants de ces quartiers populaires, souvent en première ligne de ces scènes ultra-violentes. Illustration dans le quartier du Breil, reportage Mathieu Bounour.
La parole se libère difficilement en bas des tours, une sorte d'omerta pesante, comme si toute confidence était synonyme de représailles. Les rares personnes prêtes à raconter leur quotidien décrivent un sentiment d'abandon.
Les quartiers, on les laisse de côté. faut dire ce qu'il en est.
Les habitants essaient de créer, de faire confiance et de donner aux jeunes l'occasion de s'en sortir, mais c'est souvent avec du bricolage.
On se soucie pas tellement de nous, ni des jeunes.
Marion habite ici depuis quelques années. Elle est investie dans une association qui tient le seul café du quartier situé sur la dalle centrale. Les élus ne viennent jamais les voir.
Des fusillades, des blessés, des morts, voilà, des choses pas très joyeuses, quoi.
Radio France Internationale en direct de Paris avec nos trois invités pour le débat du jour. C'était un extrait du reportage signé Mathieu Bonnour à écouter plus en longueur prochainement. Et pour prendre à la fois aussi le contre-pied de ce qu'on vient d'entendre dans vos fragments de France à retrouver sur le site du Monde, il y a aussi toute cette France solidaire et notamment née de la période Covid.
Oui, je pense que la crise du Covid a été une crise extrêmement destructrice. Évidemment, il y a eu les personnes directement touchées, décédées, mais elle a été extrêmement destructrice du tissu social en France. Et comme toute phase de destruction, elle s'est accompagnée aussi d'une phase de reconstruction. Et donc, on a vu tout un certain nombre de solidarités, de nouveaux liens sociaux qui se sont créés après cette crise. Les gens se sont un peu repliés sur eux-mêmes, sur leur cocon familial. Et aussi sur leur entourage. Et donc, on raconte à travers toutes ces histoires-là un certain nombre de solidarités qui émergent et qui, je pense, sont structurantes dans cette, qui vont être structurantes dans cette élection présidentielle.
Dans votre étude, Martial Foucault aussi, vous prenez le contre-pied parfois d'une idée reçue comme si les Français seraient tous en colère. C'est ce qui ressort aussi de votre sondage.
Oui, alors ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure sur la dimension subjective. Moi, il y a quelques temps, j'avais développé l'idée du rôle de l'électeur émotionnel. Et je rappelle un point qui est important, c'est-à-dire ces dimensions d'émotion, la colère, l'anxiété ou la peur, le ressentiment. Il faut bien voir que il faut des événements, des chocs qu'on qualifierait d'exogènes pour activer ces prédispositions des individus à manifester ces émotions. Donc si aujourd'hui, effectivement, le niveau de la colère n'est pas aussi élevé que l'on pourrait ou que certains pourraient le prétendre, c'est tout simplement qu'on est dans une période, et ça a été dit à l'instant, effectivement, la crise Covid a mis en quelque sorte un couvercle sur cette cocotte de la société française, et que au sortir de la crise, l'ensemble des filets de protection, on peut juger qu'ils sont insuffisants ou excessifs selon les positions, mais ils ont quand même fortement contribué à limiter l'effet activateur en quelque sorte de cette colère. Donc oui, on ne voit pas dans la société un peuple en colère, parce qu'il faut bien voir que la colère, c'est une émotion qui a des effets politiques majeurs. Un peuple en colère est un peuple qui va se tourner vers les formes les plus radicales, les plus extrêmes dans l'offre politique. Et ça, c'est l'effet inverse de la peur. Un peuple qui est anxieux du lendemain, de son avenir, de son destin, va plutôt se réfugier dans des formes beaucoup plus conservatrices, va privilégier le statu quo, ne sachant pas de quoi demain sera fait. Donc aujourd'hui, oui, la colère n'est pas aussi forte. Il y a un ressentiment qui est là. Et je dirais que c'est ce qui a été dit à l'instant brillamment, c'est-à-dire que oui, ces deux, trois dernières années ont montré que finalement la société française était à la recherche de diverses formes de sociabilité. Il y a un vrai manque de sociabilité, et donc que la crise Covid ait produit des solidarités, c'est vrai, que la crise des Gilets jaunes a montré que la société manquait de sociabilité, c'est vrai aussi. Et curieusement, on ne voit pas, je dis curieusement avec presque trois guillemets plutôt qu'un seul, mais ne voit pas dans l'offre politique aujourd'hui un débat autour de cette demande de sociabilité.
Je vais faire tourner la parole Martial Foucault. Hervé Lebras.
Je trouve la question de solidarité très intéressante que vous soulignez. Au fond, je vais faire un parallèle. C'est un peu du Schumpeter, c'est-à-dire c'est la destruction créatrice, c'est-à-dire que comme les cartes sont rebattues, alors de nouvelles initiatives et des initiatives solidaires émergent. Et on peut dire d'ailleurs la même chose pour la question de l'emploi. On est tous frappés, et pas seulement en France, de la difficulté qu'on ne trouve plus des emplois qui existaient avant. On ne trouve plus de garçons de café, on ne trouve plus... Les Anglais sont dans la panade absolue. Alors il y a quelquefois des explications, mais dans l'ensemble, les personnes, pendant le confinement et pendant l'épidémie ont pris conscience qu'elles pouvaient faire autre chose, qu'il y avait d'autres métiers possibles. C'est très intéressant, là, il y a vraiment une façon de rebattre les cartes. Et je trouve que la méthode ethnographique que vous employez dans Le Monde est tout à fait intéressante pour mettre en évidence cela. Les grandes statistiques ont du mal à le mettre. Et d'ailleurs, cette dimension ethnographique explique que la migration n'apparaisse pas, parce que, comme vous le savez, en France, c'est pas là où il y a des immigrés qu'on vote pour les partis extrémistes de droite. C'est même plutôt l'inverse. Moins il y a d'immigrés, d'une certaine manière, localement, plus on vote pour le Rassemblement National.
Alors, on va y venir justement à la politique. N'y aurait-il pas un effet miroir après avoir brossé, évidemment, succinctement ce portrait de la France dit morcelée, fragmentée? Quand on voit aujourd'hui l'offre politique française qui est aussi morcelée à 6 mois du scrutin, Monsieur Le Brazin.
Oui, ceci dit, c'est à 6 mois du scrutin. Les choses vont sans doute s'organiser à 6 mois des autres scrutins. On avait aussi un certain nombre de candidats qui étaient plus ou moins fantaisistes. Mais je pense que de toute manière, c'est pas simplement en France. On voit que dans tous les pays démocratiques, développés, l'offre politique devient de plus en plus large. Les partis sont de plus en plus nombreux, à l'image de ce qui s'est passé au fond en Hollande, dans les Pays-Bas, assez vite. Et pour moi, une des explications serait à chercher du point de vue du fait que au fond, les Français, comme d'ailleurs beaucoup de leurs voisins, ont fait beaucoup plus d'études. Vous aviez, en 1968, 6% seulement de la population avait fait des études après le bac. Maintenant, le chiffre, c'est 36%. Et ces 36% estiment qu'ils ont leur opinion, qu'ils ont le droit de l'exprimer. Et comme les opinions sont très diverses, ça fragmente justement l'offre politique. On ne peut plus avoir d'opinion massive. Et je pense que ça pose d'ailleurs un gros problème sur le système, sur les systèmes de représentation.
Oui, je pense que Hervé Le Braz a raison sur il faut tempérer ça en se disant qu'on est à 6 mois de l'élection présidentielle, que la réalité des finances de beaucoup de candidats va les rattraper. Tous ceux qui ne dépasseront pas la barre des 5%. Vont quand même se poser la question.
Voir les parrainages aussi.
Voilà.
Les 500 signatures.
Donc il va y avoir ce travail d'écrémage dans les semaines qui viennent. Mais il est vrai que et l'enquête à laquelle Martial Foucault a participé montre que le paysage politique n'a jamais été aussi fragmenté qu'aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est que d'un côté il y a une bataille pour l'accession au deuxième tour, mais que de l'autre côté, du côté de la gauche, cette fragmentation conduit à la disparition d'un camp politique, et ça c'est un fait qui est relativement nouveau.
Martial Foucault, est-ce à dire que les politiques passent à côté des principales préoccupations de leurs concitoyens?
C'est difficile de répondre avec autorité sur cette question, parce que ce qu'on évoquait tout à l'heure à propos des enjeux, on sait en France que on ne peut pas expliquer le vote par l'adéquation ou la bonne correspondance des enjeux et des positionnements politiques. Donc on peut avoir, comme aujourd'hui, le pouvoir d'achat et l'environnement, mais finalement les électeurs se prononcer pour tel et tel candidat ou candidate indépendamment de ces enjeux. En revanche, ces enjeux nous disent quelque chose de très intéressant dans la manière de se structure la campagne. C'est la question de la crédibilité des candidats vis-à-vis de ces enjeux. Et je crois que ce sont deux notions différentes, ce qu'on appelle la propriété de l'enjeu, sur la question du pouvoir d'achat, qui, de la gauche ou de la droite ou des extrêmes, sera en mesure d'offrir une réponse crédible à l'enjeu du pouvoir d'achat ou de l'environnement, ou également des questions de santé, de l'État redistributif. Donc ça, aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose de très important et qu'il faut suivre dans la campagne. En revanche, je converge avec ce qui a été dit à l'instant, c'est-à-dire qu'à 6 mois d'un scrutin, on va voir émerger d'autres enjeux qui vont structurer ou qui vont peut-être fragmenter précisément l'offre politique. Et aujourd'hui, ce que l'on voit de la gauche en état, enfin cette fragmentation, cette désunion, peut aussi changer en quelques semaines. Il peut y avoir une sorte de cristallisation autour d'un enjeu qui va permettre permettre à la gauche de redonner en fait de la crédibilité à son projet de société pour les Français.
Dans votre dernière enquête et sondage Ipsos Soprastaria pour Le Monde, comment expliquez-vous qu'une forte abstention nous guette pour le prochain scrutin? Vous l'estimez à 59%, sachant que à la même époque, il y a 5 ans, en tout cas pour la même question, ils étaient 67%.
Alors, attention, ce chiffre, ce n'est pas une prévision de participation. Là, c'est une intention d'aller voter, parce qu'on ne peut pas construire une intention de vote pour des personnes qui nous déclareraient être certaines de ne pas vouloir voter. Donc, faisons attention de ne pas interpréter ce chiffre comme étant une prévision de la participation. En revanche, moi, ça me paraît tout à fait normal qu'à 6 mois du scrutin, aujourd'hui, alors que tous les candidats ne sont pas déclarés, que les Français vont commencer à s'intéresser. Puis au fil des mois, l'intérêt va être de plus en plus fort pour l'élection présidentielle et on verra l'intention d'aller participer augmenter naturellement. Mais je ne suis vraiment dans l'incapacité totale de vous dire si on est sur un cru 2022 avec une participation de 10 points inférieurs ou supérieurs.
Nicolas Chapuis.
Je pense qu'il faut être extrêmement prudent effectivement sur les projections du futur chiffre de participation. En revanche, le chiffre que vous donniez correspond très clairement à ce que nous on a vu sur le terrain à travers nos 100 reportages qui ont été réalisés tous en septembre, donc à la rentrée. C'est qu'on a des Français qui sont extrêmement loin de l'enjeu présidentiel, ce qui est normal. Ils sont dans leur quotidien. Ils sont encore dans la crise du Covid pour beaucoup d'entre eux. Il y a le pass sanitaire, il y a aujourd'hui le prix de l'essence. Ils sont beaucoup plus dans ces enjeux quotidiens-là que, comme nous, dans les médias ou les responsables politiques, qui ont tous le regard tourné vers avril 2022. Ils ne sont pas du tout là-dedans. Et je pense que ça a quand même... Ils sont beaucoup plus loin de la chose politique qu'ils ne l'étaient il y a 5 ans. Il y a un certain nombre de Français qui se sont éloignés, soit parce qu'ils se sentent pas représentés, soit parce que ce jeu-là les fatigue, soit... Voilà. Mais on sent quand même qu'il y a une fatigue démocratique qui était sensible sur le terrain, avec beaucoup de gens qui nous disaient « Oh là là, ça c'est très très loin pour moi, je n'ai pas d'avis sur la question, sur 2022 ». Voilà, on sent cette distance.
Et donc ne pas forcément avoir les yeux rivés sur les sondages.
Ce qui ne veut pas dire que ces gens-là ne vont pas aller voter en 2022 une fois qu'ils se seront renseignés et qu'ils auront été peut-être intéressés par les débats.
Juste une réaction en tant que représentant du quotidien Le Monde, quand on voit que le directeur du quotidien Ouest France décide pour l'élection présidentielle de mettre fin à toute publication des sondages, vous en pensez quoi ?
Je pense que je comprends la décision de nos confrères et c'est leur choix. Je pense que le sondage se passer totalement des sondages est une erreur de mon point de vue. Je pense que le sondage est un outil politique qui est intéressant quand il est à sa juste place. Ce qui est anormal, c'est la place qu'il a prise actuellement dans le débat public où l'ensemble de la vie politique s'organise autour des sondages, où un certain nombre de confrères leur donnent une importance qui est démesurée. Maintenant, on fait de la sortie des sondages une information exclusive, alors que c'est quand même des enquêtes qu'on commande, qu'on a payées. Et on fait tout tourner, toute la couverture médiatique et politique autour de ces chiffres de sondage qui, rappelons-le, à 6 mois de l'élection présidentielle, ne veulent absolument rien dire sur le résultat final. Et donc, je pense que le sondage est une bonne chose quand il est bien employé. Et je pense que dans ce que fait Ouest France, moi, je n'opposerai pas le sondage et le reportage. Le reportage et le sondage sont complémentaires quand ils sont à leur juste place.
Hervé Lebras.
Oui, non, je pense aussi qu'il faut conserver les sondages. Je suis tout à fait de l'avis qu'ils prennent une trop grande place, mais c'est quand même, il faut arriver à garder l'idée de données qui sont représentatives, c'est-à-dire de données qui traduisent l'état d'esprit de l'ensemble de la population, ou sa situation matérielle d'ailleurs, c'est à ça que servent les statistiques, parce qu'il y a une perte très importante de l'idée de représentation statistique. On prend désormais très souvent un cas particulier pour le cas général. Et le sondage, je trouve, permet d'éviter cet écueil. Mais il faut bien sûr le pratiquer avec modération. Il faut aussi quand même avoir une idée plus large que son environnement de ce que pensent les autres. Et le sondage permet d'y parvenir.
Et on aura l'occasion d'en reparler sur Radio France Internationale. Merci Hervé Lebras, démographe, historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Nicolas Chapuis, directeur adjoint de la rédaction du journal Le Monde. J'invite tous nos auditeurs, où que vous soyez sur la planète, à aller lire, voir également les photos de tous ces reportages, fragments de France. Et puis merci également à vous, Martial Foucault, professeur en sciences politiques et directeur du CEVIPOF, à travers cette étude dont on a parlé et que l'on peut retrouver également sur nos différents sites internet. C'est la fin de cette émission réalisée ce soir par Jean-Philippe Thury, coordination Florence Ponce, documentation Emmanuel Sevin, rédaction en chef Frédéric Misselin. Quant à moi, Adrien, je vous dis à demain pour un nouveau débat. Dans quelques instants, l'information revient. 7 milliards de voix.